Vous le savez, de temps à autre, on traverse la rivière et on s'en va en Europe parler avec les Berkov de ce monde, avec les Gav de ce monde, avec des grands journalistes également qui ont fait le tour du monde et qui ont vraiment rencontré des leaders de ce monde et des gens qui peuvent commenter l'actualité de brillante façon parce qu'ils ont mis les pieds sur le terrain. Ils ont une perspective que nous, on n'a pas ici à Québec et très certainement dans les studios de Radio X. Ça nous fait plaisir de recevoir ce matin le grand reporter, ex-directeur adjoint du Paris Match, entre autres, mais qui dirige maintenant, je sais pas si je peux le dire, dirige Omerta, Régis Le Sommier. Allô, comment ça va?
Oui, bonjour, ça va?
Oui, est-ce que vous dirigez Omerta ou vous êtes certes l'un
oui,
des...
Oui, je suis...
Le patron.
Non, je suis directeur de la rédaction, voilà. Il y a un patron et moi, je mets les choses en musique, voilà.
Je vais poser une première question qui sera particulière. Je vous laisse choisir... La destination, je veux parler du Groenland avec vous, quoique le Groenland se jugeait moins hot. Le Venezuela, Cuba, l'Iran comme mise en bouche ou comme dessert, la France. Et certes, Trump dans tout ça. On commence par quoi? J'oublie là-dedans, évidemment, l'Ukraine et la Russie. C'est une planète folle sur laquelle on vit. Quelle est la destination la plus périlleuse ce matin, tiens?
Bah, je ne sais pas quelle est la plus périlleuse, mais moi, je peux commencer par vous parler de celle dont je reviens, c'est-à-dire Cuba. Je viens de passer 10 jours dans l'île, dans le cadre d'un reportage avec les habitants. J'ai sillonné cette grande île des Caraïbes. Et là, j'ai eu cette impression incroyable de faire un voyage dans le temps. On va dire, les portables n'existent pas. Il y en a quelques-uns, si vous voulez, mais les gens se parlent normalement dans la rue. Et parfois, j'ai eu cette réflexion, je me dis, ah ben oui, c'est marrant, c'était comme ça avant. Aujourd'hui, on est le nez sur notre truc, on voit pas les gens passer. Là, vous êtes dans des foules où les gens se parlent, voilà. Alors, c'est peut-être dû à la misère, dû à l'isolement, dû au fait que c'est un pays qui est sous sanction par les États-Unis depuis 1962, qui a connu et qui a l'habitude de ces sanctions. Alors là, actuellement, leur problème principal, c'est le pétrole. Ils n'ont plus de pétrole vénézuélien qu'ils achetaient quasiment gratuitement à Maduro. Et donc, ils sont obligés de compter un peu sur le Mexique, qu'il renvoie avec parcimonie, mais on sent bien que la présidente mexicaine va pas tenir longtemps devant les pressions de Donald Trump.
Comment et la CIA également, comment la CIA agit selon vous, se comporte, et quel est le jeu diplomatique, la game de Trump concernant Cuba ce matin?
Mais je pense que la game, comme vous dites, de Trump concernant Cuba, elle ressemble beaucoup à ce qu'il fait dans d'autres parties du monde. C'est-à-dire, là, en l'occurrence, c'est de provoquer un blocus de plus en plus étroit et complet de l'île, en menaçant de sanctions les pays qui commerceraient avec Cuba. De façon à vraiment... asphyxier l'île et ensuite négocier. C'est toujours comme ça qu'il fait. Il assomme, on le voit avec l'Iran, mais il est un peu plus embêté avec l'Iran parce que là, il y a un peu fort à faire derrière et il n'a pas envie de s'engager dans les guerres longues. Mais pour Cuba, il se dit pourquoi pas recommencer ce que j'ai fait au Venezuela. L'île est dans un état de délabrement économique terrible. Moi, j'ai vécu à Guantanamo, la partie cubaine, hein, et à Santiago de Cuba, jusqu'à 15 heures d'interruption de l'électricité. Les gens, d'ailleurs, n'ayant plus de pétrole ou en ayant moins, le pétrole est rationné là-bas. Il faut une carte particulière qui est vendue par le gouvernement. Donc certains Cubains peuvent se la payer et encore faire leur plein. Et pour les autres, c'est le réflexe. Donc ils reviennent à la charrette et au cheval. Donc qui n'ont pas laissé tomber, hein, et donc dans l'est de l'île, il y a de moins en moins de voitures et de plus en plus de charrettes. Donc ils s'adaptent, ils sont très adaptés, hein. Faut pas oublier que les Cubains, après 91, après la chute de l'Union soviétique, ne recevaient plus aucune aide de la part de la Russie. Et donc, ils ont connu des famines et ils ont développé avec ingéniosité des tartes au plures de pamplemousse, des quiches avec des pots de banane. Enfin bref, voilà l'économie de la faim. Et actuellement, vous avez certaines zones où vous n'avez plus rien. Ou presque sur les étals des supermarchés. Il est difficile dans certains endroits de trouver un restaurant. Nous-mêmes, on s'était mis au diapason. On mangeait un repas par jour dans certains coins. Donc c'est un état de délabrement excessif, mais qui n'enlève pas aux Cubains une forme de joie de vivre et un côté quand même extrêmement sympathique. Enfin, c'est très intéressant comme île.
La joute, elle est là, c'est-à-dire provoquer le peuple pour que le peuple se soulève et on veut faire décoller le régime. C'est ça le endgame, faire décoller le régime. Mais là, ce que vous me racontez ce matin, ça marche pas, hein? Ça marche pas. Pourquoi ça ne marche pas?
Ben parce que le peuple souffre, oui, mais d'abord, c'est oublier aussi que beaucoup de peuples, comme les Iraniens, comme les Cubains, comme les Vénézuéliens et autres, sont extrêmement nationalistes. Ils ont une culture à part, ils sont, pour ce qui est de Cuba, leur identité, elle s'est faite dans cet affrontement avec les États-Unis, qui dure depuis 69 ans, leur résolution, elle a 69 ans, et donc ça a forgé une identité particulière. Les Iraniens, pareil, ils sont sous sanction depuis 1979, ce que disait l'ayatollah Khomeini, en parlant des États-Unis, le grand Satan, une partie des Iraniens considèrent toujours que les États-Unis sont le grand Satan. Donc quand ils se prennent des bombes sur le visage, comme ça a été le cas avec l'attaque israélienne de juin dernier, le problème c'est que la rhétorique occidentale qui dit « on va vous bombarder pour vous libérer », on a quand même un peu de mal à aimer celui qui nous bombarde, vous voyez. Et ça, les gouvernements en place jouent habilement là-dessus. Ils jouent de ce côté, de cette fibre, pour dire, regardez, vous renversez le gouvernement, eh bien, vous allez avoir les suppôts des gens qui vous bombardent. Hein. C'est des choses qui étaient utilisées par le gouvernement de Vichy contre les Alliés au moment du débarquement. On expliquait aux Français que les Alliés provoquaient des destructions des villes normandes de façon à susciter cette adhésion à un autre projet en disant voilà, ce ne sont que des destructeurs et ils ne vont vous amener que la misère. Voilà.
La force de la propagande. Hein? La force également de la propagande. Maintenant, le match de Trump, c'est d'amener le régime à négocier. Mais évidemment, ce qu'on voudrait du côté de la CIA, c'est que le régime décolle. Le régime est bien incrusté. Et c'est un mode de vie pour les apparatchiks. Et c'est un mode de vie pour les anciens castristes. En fait, Raoul est encore là. Donc, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre pour la négociation, là.
Non, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre. Mais ce que voudrait Trump, on l'a vu très bien avec le Venezuela, c'est en gros, il aimerait instaurer à Cuba un régime qui n'est pas défavorable aux Américains. La façon dont Cuba s'organiserait, alors évidemment, là, il y a un côté, comme c'est en face de Key West, il n'est pas très loin, Mar-a-Lago, c'est la Floride. Cuba, ça ressemble à la Floride, hein. D'ailleurs, il y a un célèbre écrivain américain, Ernest Hemingway, qui avait une maison sur chaque rive.
On peut visiter son banc à La Havane. Exactement.
Voilà. Et il avait sa maison à Key West. On se trouve face à des pays qui ont d'ailleurs une partie d'histoire commune.
El Capitolo, Régis Le Sommier.
Oui, c'est ça. Bien sûr. Bien sûr. Et puis, il y a eu toute l'époque Batista où la mafia américaine était très implantée à Cuba, où les Américains y allaient en villégiature. Et aujourd'hui,
la maison d'Al Capone à Varadero, Régis Le Sommier, la maison d'Al Capone, c'est complètement fou, qu'on peut visiter.
Oui, qu'on peut visiter, bien sûr. Ouais. Donc les liens sont profonds. Maintenant, Trump, d'un point de vue pratique, et on le voit vraiment, je reviens sur cette histoire d'Iran avec ces négociations qui vont débuter vendredi à Mascate, au Sultanat d'Oman, sur la question du nucléaire. Trump est terrorisé à l'idée de refaire un Irak. Il ne veut pas du tout, il veut du changement de régime, mais si le régime se maintient et que le régime est favorable aux Américains, ça lui va très bien. C'est ce qui se passe au Venezuela, il l'a dit, il veut pas d'Irak, il veut pas d'investissement, surtout de guerre qui dure 10 ans, et surtout ses partisans l'ont élu pour que ces guerres-là n'existent plus. C'est ça aussi, il est prisonnier de sa base, Donald Trump.
Non, moi, il a l'intelligence de l'ajustement, en tout cas en apparence. C'est-à-dire, voilà. Il peut s'accommoder d'un régime hybride. Prenons l'exemple de Delcy, la madame, la vice-présidente qui est devenue vice-présidente. Ouais. Donc, on décapote le régime, on arrête Maduro, mais on s'accommode d'un communiste et on la met à sa main. Donc, on est prêt à accepter du côté de Washington un régime hybride, c'est-à-dire un ancien salaud, mais qui travaillerait pour la maison. C'est un peu ça.
Mais voilà, c'est ça. Mais c'est pas nouveau dans l'histoire des États-Unis. Hein. Le moral clarity, c'est un terme très néoconservateur. C'est-à-dire, qui rejoignait d'ailleurs la philosophie de George Bush. You're either for us or against us. Ça, c'est, je dirais, le dialogue, la vision américaine ancienne. Bien. Aujourd'hui, on est avec une Amérique qui veut être forte, qui veut compter, qui veut être quelque part le distributeur des coups, sans être complètement le gendarme du monde, parce que quand Xi Jinping dit hier Taïwan fait partie du territoire de Chine, j'ai pas entendu Donald Trump dire nous défendrons Taïwan jusqu'à notre dernière goutte de sang. Non, il est assez discret là-dessus parce qu'il a bien compris que le monde est en train de se recomposer suivant des blocs. Il souhaite cette recomposition et il souhaite régner sur son bloc, faire des alliances économiques pour pouvoir récupérer des terres rares, des minerais et surtout le pétrole. Il a vu qu'il y avait une carte avec le pétrole. En prenant le Venezuela, il prive les Chinois de 10% de leur approvisionnement en pétrole. S'il arrive à mettre la main sur l'Iran, c'est 90% de l'approvisionnement en pétrole des Chinois, vous imaginez? Donc ça lui donne une sacrée carte par rapport aux Chinois qui, eux, ont de toute façon un avantage sur les terres rares et sur les minerais en raison de leur avance dans l'intelligence artificielle, dans la construction automobile, dans l'électricité. Enfin bref, ils sont très très en avance, les Chinois. Et Trump voudrait rétablir une forme d'équilibre. Toute sa diplomatie et toute sa politique internationale exclusivement est basée par rapport à ça. C'est pas des histoires de morale, de démocratie, etc. Ça, il s'en fiche complètement. Il nous épargne le vernis, vous saviez, qu'on nous servait au moment de la guerre en Irak. On va remplacer cet infâme dictateur qui est Saddam Hussein, entre parenthèses, sur lequel on s'était appuyé pendant 40 ans pour essayer de contenir l'influence iranienne, qui avait été notre ami, et qu'on décide tout à coup, c'est le nouvel Hitler, on va instaurer la démocratie, on va faire le don de la liberté, comme disait Bush, aux Irakiens, et tout va s'arranger.
Trump se serait très bien accommodé de Saddam Hussein et de ses fils fous, crétins, mais il se serait accommodé de ça pour maintenir une stabilité.
Mais tout à fait. Et il y a une chose qu'on a un petit peu oubliée, mais qui c'est que les États-Unis se sont accommodés déjà à l'époque de Kissinger et de Nixon et même de Kennedy et de Johnson, de Marcos, qui était quand même pas le dictateur des Philippines, également.
On a qu'à penser à Mao, le voyage en 72 de Nixon à Mao, les photos sur la muraille de Chine, alors que dans le fond, il savait que c'était un salaud, la grande marche en avant.
Bien sûr, il y avait une forme de, on va dire, de pragmatisme. Ouais. Les États-Unis, à partir du moment où le régime est en leur faveur, peu importe la question des droits de l'homme, c'est pas ce qui leur importe. Ça, c'est venu, on va dire, plus avec ces dernières guerres où on a voulu façonner le monde à l'image occidentale et à l'image américaine, voilà.
Absolument. C'est extraordinaire de vous parler, Régis. Il faut se laisser, malheureusement, mais ça sera un grand plaisir de se reparler.
Avec plaisir, quand vous voulez.
La planète est en feu. Merci.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir. Wow. Et Régis Le Sommier, beaucoup de livres écrits sur Assad, Daesh. Bon, et la liste mm-hmm. continue. Qu'est-ce que tu m'écrivais sur le Messenger avant de se laisser?
Ronald Reagan disait de Moubarak, qui était le président d'Égypte, « C'est un chien, mais c'est notre chien. »
C'est le jeu des alliances. C'est pas propre. S'il n'y a rien de propre, là.